Bonjour à ceux que j'aurais pas eu le temps de saluer encore. Alors, pardon, petit réglage. Ce matin, je vais simplement prendre la parole pour partager avec vous un témoignage d'une expérience vécue ici, dans cette église à Ris-Orangis, parce que mon épouse et moi avons eu la responsabilité du groupe de jeunes pendant plusieurs années. On s'occupe toujours de ces mêmes jeunes aujourd'hui, sauf qu'ils sont un petit peu moins jeunes. Donc, voilà, on s'occupe des jeunes adultes maintenant. Alors, c'est un témoignage, et bon, comme tout témoignage, il n'est pas normatif. Il y a une grosse part de subjectivité dans ce que je vais partager avec vous ce matin. Et bon, je vais me garder d'en faire une leçon de doctrine, évidemment, parce qu'il y a des conditions particulières qui s'attachent à cette expérience. Voilà, des circonstances qu'on connaissait à ce moment-là. Mais il y a aussi peut-être, et j'espère, des choses qui vont encourager, être utiles à quelques-uns d'entre vous au moins. Donc ce groupe de jeunes dont on avait la responsabilité, ils se réunissaient ici deux fois par mois, le samedi soir, et on avait ensemble un moment de jeu, un moment de partage biblique et puis une petite collation pour bien terminer. On était une dizaine, une quinzaine, parfois même une vingtaine de jeunes lycéens qui étaient pour la plupart issus de familles chrétiennes. Et pour autant, vous le savez, hein, c'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne que notre situation spirituelle est claire. Parfois oui, et c'est une grâce, mais en l'occurrence, pour la plupart, la situation spirituelle de ces jeunes n'était pas claire. Et pour moi, m'occuper des jeunes, ça a été une grande découverte. Déjà parce que j'étais converti depuis relativement peu de temps quand on m'a confié cette responsabilité-là. Et je devais transmettre des connaissances bibliques, enseigner la parole de Dieu, et ça c'était assez solennel. C'était très nouveau. Et puis, d'autre part, je me suis aussi confronté à la jeunesse. Alors j'aime pas parler de l'adolescence, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même une période dans la jeunesse qui est assez délicate, qui est faite de plein de transitions, et ces transitions, des fois, elles se passent en douceur, et des fois, au contraire, elles sont plus brusques, elles se passent par à-coups, donc c'est pas toujours évident à gérer. Donc, s'occuper des jeunes, pour moi, ça a été une expérience vraiment profonde, que j'ai beaucoup appréciée. Il y a eu, évidemment, d'en douter, des difficultés dans ce ministère, mais c'était aussi très stimulant, parce que en faisant connaissance avec ces jeunes, j'ai pu commencer à discerner leurs besoins, leurs attentes, les problèmes aussi de leur vie et les choses auxquelles ils font face. Et j'ai découvert aussi quelque chose de nouveau pour moi et de très plaisant, qui était partager ce que j'avais reçu du Seigneur, puiser aussi dans la parole de Dieu ce que le Seigneur m'y avait enseigné, et puis pouvoir aussi le transmettre à ces jeunes. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec mon épouse, qui elle avait plus d'expérience que moi dans ce domaine-là, j'ai commencé à apprivoiser un petit peu ce ministère et ce groupe de jeunes, commencé à cerner leur personnalité aussi, leurs besoins. J'ai aussi essayé de me rappeler ce que moi j'avais vécu à cette époque-là, mais n'étant pas d'une famille chrétienne, j'avais pas bénéficié d'un enseignement biblique, donc c'était pas évident de transposer ce que j'avais vécu dans un contexte, dans un cadre biblique. Mais en tout cas, avec mon épouse, on avait vraiment à cœur ce groupe de jeunes, et on voyait bien des luttes qui se jouaient dans leur vie. Il y avait vraiment des combats à mener, des grands tiraillements, et je crois que la cause majeure des grands tiraillements qui peuvent exister dans la vie des jeunes issus de familles chrétiennes, c'est vivre dans un double contexte. Il y a un contexte qui est chrétien, biblique, dans la famille, à l'église, et d'un autre côté, il y a un contexte qui est celui du monde, au lycée, au collège, avec les copains. Et quelque part, quand on s'occupe d'un groupe de jeunes, on se retrouve à mélanger ces deux contextes. Parce que on est dans un cadre qui est chrétien, qui est organisé sous, on peut dire, la tutelle de l'Église, un cadre qui a son propre fonctionnement, avec et qui ne devraient pas fonctionner selon les principes du monde. Et puis d'un autre côté, on réunit ensemble des jeunes, des copains, aussi des personnes de sexe opposé qui ont l'habitude de se fréquenter dans un cadre différent. Et donc ça peut créer un mélange un peu étonnant. Et pour nous, on a vu qu'il y avait comme quelque chose de coincé dans ce groupe de jeunes. Il y avait quelque chose qui avait du mal à se dérouiller parce qu'il y avait cet équilibre, je ne sais pas si on peut parler d'équilibre, en tout cas cette, ce conflit entre ces deux contextes bibliques et du monde. Et pendant plusieurs mois, on a continué ces groupes de jeunes, on a continué sous ce même format avec le moment de jeu, l'étude biblique, la collation. Et il y avait quand même de plus en plus d'échanges entre les jeunes, c'était encourageant de les voir petit à petit nouer des contacts, se parler un petit peu plus et pas rester assis sur leur chaise pendant une heure et demie à écouter gentiment. Mais c'était difficile de dire ce qui se passait à l'intérieur. On ne voit pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Et il n'y avait rien de significatif qui semblait émerger de ces groupes de jeunes, si ce n'est des liens qui se tissaient, mais rien de qui semblait indiquer une conversion ou un cheminement vers le Seigneur. Mais on a fini par voir quelques germes pousser. Mais parallèlement à ça, j'ai commencé à ressentir une certaine gêne. Il y avait quelque chose qui me semblait empêcher la croissance du groupe. J'aurais pas su dire exactement ce qui se passait, mais c'est comme si ces petites graines qui avaient germé ne recevaient pas assez de lumière et étaient empêchées dans leur développement. Et alors, si vous avez des plantes dans votre salon, quand une plante manque de lumière, on essaye de changer son exposition et de trouver la bonne exposition pour favoriser sa croissance. Et donc on se demandait s'il fallait juste s'armer de patience, parce que des fois la germination et la croissance d'une plante, ça peut être simplement long, ou s'il y avait quelque chose qui devait être changé, s'il fallait changer leur exposition à la lumière. Et mon sentiment s'affinait un petit peu plus au fil du temps, et j'en suis venu à penser que l'organisation des réunions, et notamment le temps de jeu, était plus un frein qu'un facteur de croissance spirituelle pour ces jeunes. Parce que d'un côté, on leur annonçait l'Évangile, on leur parlait d'une vie consacrée à Dieu, d'un modèle de vie qui n'est pas inspiré par les principes du monde, et quelque part, par les jeux, on laissait subsister un contre-exemple de consécration. Et cette forme de mondanité, alors je dis bien une forme de mondanité, parce que ce ne serait pas juste de poser ce jugement sur toute forme de jeu dans toutes les rencontres de jeunes, il me semblait qu'elle était quelque part nuisible, dommageable pour notre groupe. Et malgré tout, on avait une lutte avec ça, parce qu'on disait il faut se faire quand même tout à tous, ce que l'on se dit Paul, et s'adapter à ceux à qui on annonce l'Évangile. On ne peut pas faire une étude biblique de 45 minutes à l'école du dimanche, c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Il faut s'adapter à l'auditoire. Mais malgré tout, avec des lycéens, des jeunes qui approchent de la majorité, qui ont soif d'être considérés comme des adultes, il me semblait que le cas était quand même assez différent. Et je me demandais, j'étais vraiment tourmenté en pensant à ce qui allait se passer le jour où ces jeunes seraient vraiment dans la vie adulte et qu'ils n'auraient plus de jeux organisés dans l'église. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'ils allaient continuer à venir? Ou est-ce qu'ils venaient pour les jeux? Qu'est-ce qui allait se passer le jour où il n'y aurait plus ces moments de distraction pour eux? Donc on a vraiment connu un tiraillement en pensant à ces choses, savoir est-ce qu'il fallait supprimer le moment de jeu ou pas. Parce qu'on avait aussi la crainte qu'il y ait des jeunes qui quittent le groupe par mécontentement. Et malgré tout, j'avais encore ce sentiment qui était diffus mais assez persistant que ces rencontres, telles qu'elles étaient organisées à ce moment-là, elles ne glorifiaient pas le Seigneur. Et le Seigneur nous a fait grâce, et c'est en entendant une prédication plusieurs mois après que j'ai compris que le Seigneur m'a secouru. Et le prédicateur rappelait la séparation qui existe entre ce qui est saint d'un côté et ce qui est péché de l'autre. Ça, c'est une distinction qu'on arrive plus ou moins bien à faire. Mais il a rappelé aussi avec Ézéchiel 42 et ce mur qui séparait le saint et le profane, la distinction qui existe entre le saint, la présence de Dieu, et le profane, qui n'est pas du péché à proprement parler, mais qui ne vient pas de Dieu. Et ça, c'était pas forcément évident à déceler. Et en entendant cette prédication, je crois que j'ai compris que le Seigneur nous appelait à cesser les moments de jeu dans les rencontres de jeunes, pour que les jeunes puissent s'attacher à la parole de Dieu sans distraction. Alors on en a parlé à notre pasteur qui a donné son assentiment pour cette modification dans l'organisation des réunions. Et j'étais vraiment heureux parce que le Seigneur avait donné clairement pour moi une direction à suivre. Et je crois qu'on a dû l'annoncer aux jeunes à la réunion qui a suivi. On a expliqué pourquoi on faisait ce changement. On a aussi apporté une méditation pour essayer de transmettre ce qu'on avait reçu, nous, au cours de cette prédication-là. Et bon, sur le coup, vous vous en doutez peut-être, les réactions ont été assez mitigées. Mais il n'y a pas eu de coup d'éclat à ce moment-là, mais malgré tout, assez rapidement ensuite, le retour de manivelle s'est fait sentir, en particulier de la part d'une partie des jeunes dont on sentait qu'ils venaient pas pour les bonnes raisons. Et ils étaient avec nous, il y avait des échanges entre les jeunes, malgré tout, et ils restaient très gentiment écouter ce qu'on leur disait, mais malgré tout, on sentait que leur motivation n'était pas celle qu'on pouvait attendre, celle qu'on espérait voir. Et donc on a vu de l'opposition de la part de ces jeunes, même de la part de quelques parents qui estimaient qu'on ne peut pas être attractif dans notre annonce de l'Évangile si on annonce pas, si on n'apporte pas quelque chose en plus pour plaire aux jeunes. Et bon, dans ces cas-là, comme souvent quand on prend position pour la gloire de Dieu, on reçoit des coups. Les coups, ça fait mal, et on en a reçu. Mais le Seigneur avait éclairé, avait mis tellement de clarté sur ce chemin-là qu'on n'a pas douté un seul instant qu'il fallait persévérer. Mais le plus douloureux, ça a été quand on a vu certains jeunes qui ont quitté le groupe comme on le craignait et plus du tout revenir. Alors ils venaient au culte parce que leurs parents les y contraignaient, mais ils ne venaient plus aux rencontres de jeunes. Et bon, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait encore mal, même si ça fait plusieurs années. Mais ce qui est extraordinaire et ce qui est vraiment encourageant, et c'est pour ça que je veux partager ça avec vous ce matin, c'est qu'à partir de ce moment où on a fait cette distinction entre le saint et le profane, les jeunes qui sont restés, qui étaient, grâce à Dieu, en plus grand nombre que ceux qui sont partis, ont connu un véritable bond spirituel dans leur vie. On a vu que le Seigneur a agi avec beaucoup de puissance dans ce groupe. On les a vus s'engager presque tous les uns à la suite des autres, et pas seulement s'engager par la conversion, par le baptême, mais aussi en servant dans l'Église. Et Dieu, par la suite, a ajouté encore d'autres jeunes à ce groupe. Le Seigneur a dit au prophète Jérémie, « Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Et ce verset est venu longtemps après, m'a fait penser à ce qu'on avait vécu avec ce groupe de jeunes, qui était pour moi un grand encouragement de voir le Seigneur agir dans ces circonstances-là. J'ai beaucoup de joie aussi à vous partager ce qu'un de ces jeunes-là a écrit il y a quelques mois. C'est un article que vous avez peut-être déjà lu parce qu'il circule sur Internet. Je vais vous en lire juste le titre. Il s'adresse aux responsables de jeunesse dans les églises. Il dit « ne nous donnez pas des pizzas, donnez-nous l'évangile. Et j'ai trouvé ça vraiment beau qu'un jeune ose s'adresser aux responsables de son église pour leur dire ça, donnez-nous l'évangile. Et c'est vraiment très encourageant de voir ça. Alors je vous ai partagé ce témoignage, c'est une expérience parmi beaucoup d'autres, parce que ça m'a vraiment encouragé dans une prise de position qui n'était pas évidente. C'était pas évident parce qu'on fait face, dans l'église, dans les groupes de jeunes, à des gens qui ont des attentes. Ils attendent quelque chose de l'église. Et souvent ces attentes, elles sont légitimes. Mais il y a aussi des attentes qui ne le sont pas. Et on peut vivre aussi une certaine forme de pression quand on s'entend dire qu'on va perdre les jeunes si on ne leur donne pas ce qu'ils demandent. Et souvent, les jeunes demandent du pain et des jeux. Et c'est vrai. Ils préfèrent le pain bien aplati avec de la sauce tomate, du fromage et des champignons dessus. Mais et pour ma part, j'ai la conviction que le Seigneur a donné l'Église pour quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Il a confié à l'Église la mission d'annoncer l'Évangile, un Évangile qui est pur. Et Jésus-Christ, c'est un pain qui est bien plus propre à nourrir le cœur des jeunes que des pizzas. Et donc je voulais simplement partager ces choses avec vous, et j'espère que vous en retirerez un encouragement, quelque chose d'utile en tout cas avec les jeunes de vos églises.